Tant des démocraties ayant pour épicentre la valorisation du pluralisme des conceptions du bien et de l'existence humaine, nous pensions, beaucoup d'entre nous, la plupart d'entre nous, pensaient que la religion allait désormais constituer simplement l'une des options disponibles pour donner sens à notre vie, une option disponible parmi d'autres, sans apparaître nécessairement et publiquement comme la source unique du sens et l'unique pourvoyeuse de repères normatifs. Alors, voilà, c'était ce que je désigne comme l'optimisme de ces décennies-là. Alors, j'ai essayé d'en faire la démonstration par écrit, brièvement, dans le papier qui m'a été demandé. Cette configuration, c'est aujourd'hui configuration optimiste de l'esprit du temps des années 80-2000. C'est aujourd'hui, à mon sens, largement problématisé, enfin pas seulement à mon sens, je pense, notamment quant au rapport aux religions qui s'y trouvent inscrits et dont le réagencement envisagé par les sociétés combinant démocratisation et rationalisation apparaît aujourd'hui soulever désormais de plus en plus d'interrogations. Et de fait, les publications sur les religions sont multiples, ce qui n'était pas il y a 10 ans, 15 ans. Mon monde éditorial fonctionne comme un bon sismographe de ce déplacement. Pour en témoigner, j'ai pris, dans mon papier écrit, j'ai pris comme exemple l'éthique de la discussion défendue par Habermas, et je vais le reprendre un peu différemment, parce que l'éthique de la discussion avait été, dans la période optimiste, 80-90, un des pivots théoriques de cet optimisme. Un des pivots théoriques de cet optimisme démocratique, et à travers l'idée que la mise en place de procédures de discussion, selon une conception purement procédurale de l'éthique publique, notamment, pouvait surmonter, nous permettre de surmonter autour d'accords, autour de situations d'entente, les débats, les difficultés, ou éventuellement les discussions, les oppositions que nous pourrions avoir les uns et les autres, individus ou groupes d'individus. Par rapport à cela, il se trouve que l'éthique de la discussion, qui avait bien illustré cet optimisme à sa manière, s'est trouvée conduite, essayer de l'expliquer, à réexaminer sous un angle fortement modifié la place et le rôle des religions dans un âge désormais désigné par Habermas comme post-séculier. Désignation qui n'est pas totalement translucide d'ailleurs, et qui entend être le signe que le rôle que les religions pourraient être conduites à jouer dans l'espace public se révélerait désormais irréductible à celui qu'exprimaient les thématiques du désenchantement du monde et même de la sécularisation. Il y a là un déplacement non négligeable dans l'économie générale de cette éthique-là, l'éthique de la discussion, et plus largement dans l'éthique contemporaine, qui mérite, à mon avis, d'être interrogée à la fois sur sa teneur précise, sur ce qu'il explique, et sur ce qui peut nous en apparaître résulter pour la prochaine décennie. Alors, puisque je viens de prendre à nouveau comme symptôme de ce déplacement, de ce bouger dans l'esprit du temps, la modification survenue au cœur de l'éthique de la discussion dans la relation aux religions, je vais oralement, c'est ce que je modifie dans mon intervention, je vais oralement préciser dans quel contexte ce processus, ce déplacement, qui est assez stupéfiant, qui pour moi est stupéfiant, et annonce, je crois, des interrogations qui vont durer. Je vais préciser dans quel contexte ce processus, ce déplacement concernant la place accordée au débat sur les religions s'est amorcé et s'est accompli. Le contexte est ici originellement, alors on peut l'indiquer de façon très précise, je vais essayer de le faire en quelques instants, est ici originellement celui des lendemains du 11 septembre. De façon incontestable, je ne reprends pas les arguments que j'ai fournis oralement, mais je vais directement à quelque chose que je n'ai pas utilisé dans mon papier écrit, qui est l'entretien qu'a eu Habermas à New York en décembre 2001 avec la journaliste italienne Giovanna Boradori qui a, en quelques semaines, eu successivement un entretien avec Derrida et avec Habermas et en a tiré un volume spectaculaire. Il n'y a pas eu d'entretien entre Derrida et Habermas, n'est-ce pas? Il y a eu deux entretiens du journaliste avec Derrida d'un côté, avec Habermas de l'autre. Alors, je laisse de côté l'entretien avec Derrida, qui visiblement est ce qui intéressait le plus la journaliste, mais dans le montage qu'elle a fait assez habile de cette opération, il y a malgré tout un entretien avec Habermas qui va donc de décembre. Et dans cet entretien, j'extrais quatre lignes. Depuis le 11 septembre, je ne cesse de me demander si, au regard d'événements d'une telle violence, toute ma conception de l'activité orientée vers l'entente, celle que je développe depuis la théorie de la guerre communicationnelle, c'est-à-dire depuis précisément les années de l'optimisme, depuis 87, je ne cesse de me demander si, au regard de ces événements, toute ma conception de l'activité orientée vers l'entente ou vers l'accord n'est pas en train de sombrer dans le ridicule. Alors cette phrase est... Enfin, à la part de quelqu'un de l'ampleur de Habermas et de la stature de Habermas, c'est très, très déconcertante et elle témoigne d'un désarroi, à vrai dire tel que dans la suite de l'entretien, dont je trouve qu'il a été assez mal géré, pas par Habermas, mais par la personne qui l'organisait, la chose ne va pas beaucoup plus loin dans la suite de l'entretien. Habermas se borne à expliquer qu'en général, lorsqu'une communication se brise ou est perturbée, nous avons à notre disposition un certain nombre de procédures, un certain savoir de procédures pour essayer de rétablir la communication et de réparer ce qui a été perturbé. Ce qui, dit-il, en revanche, est tout à fait difficile à envisager et tout sauf évident, disons, quand la spirale de la violence, c'est l'expression qu'il emploie, s'est avancée jusque-là. Alors, la personne qui interroge Habermas, parce que visiblement l'entretien en cours la concerne assez peu, laisse, si je puis dire, le propos filer, alors qu'elle tenait, elle aurait pu tenir un véritable, pardon le langage du journalisme, puisque c'est le cas, un véritable scoop. Il fallait creuser ce que, visiblement, Habermas laissait percer, et qui était très récent, parce qu'il avait eu, en septembre 2011 en Allemagne, un ou deux entretiens à l'occasion de la remise de prix sur le thème qu'il a publié ensuite, Foi et savoir, et il ne dit rien de tel. Il se met à dire cela quand il s'est trouvé à New York et qu'il a... Évidemment, sur place, la chose prenait une teneur et un retentissement différents. Donc là, je l'abrège. Giovanna Moradori laisse le propos filer, je disais, elle laisse en même temps Habermas rétablir une sorte d'équilibre. Une forme d'équilibre en défendant donc quelques procédures susceptibles dans ce genre de situation de faire ressurgir un horizon commun d'interprétation. Et les dernières étapes de l'échange tournent un peu à vide et ne conduisent plus hier à Habermas qu'à évoquer de façon un peu mécanique le fait que l'essentiel est de ne pas se tromper sur la façon dont, dit-il, la forme critique permettant de battre en brèche la violence sans la reproduire sous une forme nouvelle ne réside que dans le télos de l'entente et dans notre disposition à viser cette finalité. C'est une belle phrase, mais c'est une phrase. C'est vraiment une phrase, c'est-à-dire que l'entretien est presque terminé, et c'est une phrase, je veux dire qu'on ne saura en rien ce qui assure, que ce, aux yeux de Habermas, que ce télos de l'entente peut être rétabli. Ce qui assure que ce télos de l'entente anime encore les acteurs quand la violence a pris la forme du 11 septembre, ni ce qui garantit qu'ils font encore preuve, de part et d'autre, d'une disposition à viser ce télos, à viser cette finalité. Et donc ça se termine, on parle un peu de Nuremberg, du Kosovo, de Carl Schmitt, mais l'essentiel a disparu du propos. J'imagine, on ferme les micros, on boit un verre et on retourne à l'hôtel. Et la journée est terminée, j'imagine. Voilà. Je pense que nous sommes passés très près d'une situation qui aurait pu être encore plus impressionnante, même si elle l'est déjà beaucoup. En tout cas, elle l'est pour moi. Elle l'est beaucoup dans la mesure où, c'est ce que j'ai voulu faire apparaître, Habermas, il semble beaucoup plus déstabilisé par rapport au choix de sa propre éthique que dans toutes les autres interventions concernant la religion, les religions qu'il avait pu faire auparavant, y compris en septembre, et auquel il a pu s'adonner ensuite dans le livre qui est paru plus tard, en 2008, « Naturalisme et religion ». ce jour-là, le jour de cette interrogation, je pense qu'il s'est passé quelque chose de plus radical et que Habermas a en réalité fourni à son interlocutrice, qui ne s'en est pas servie, tous les moyens de se trouver mis en difficulté. Et là, je voudrais essayer de poursuivre l'interrogation telle qu'elle aurait pu se poursuivre. Il me semble que dans cette nouvelle configuration qu'enregistre Habermas à New York de la réflexion sur les exigences de la coexistence, la question qui se pose à lui est celle de savoir comment les idéaux démocratiques, privés de cet optimisme qui en avait accompagné les décennies précédentes, durant les décennies précédentes, les plus puissantes reformulations contemporaines, que ce soit chez Rawls, que ce soit chez lui, se trouvaient, ressortaient extrêmement fragilisés, ne pouvaient que ressortir extrêmement fragilisés. Notamment et avant tout, eu égard à leur capacité à gérer dans des sociétés tenues pour pacifiées, mais aussi dans les relations entre des sociétés pacifiées ou non, leur capacité à gérer la pluralité qui s'affirmait, alors pour le coup irréductible, des conceptions du bien. En particulier en un temps où la revitalisation du religieux augmente la fréquence des conflits entre groupes religieux et entre confessions, et risque ainsi de redonner au polythéisme des valeurs une dimension de guerre des dieux qui pourrait ne plus être métaphorique. Il me semble, et je m'achemine vers les dernières étapes de mon intervention, que à la question de savoir si les idéaux démocratiques peuvent ressortir désormais dans les prochaines décennies, pourraient ressortir non fragilisés par la perte de l'optimisme dont avait fait preuve leur principale reformulation dans les dernières années du XXe siècle, la réponse, je ne sais pas laquelle vous vous ferez pour vous-même, mais la réponse est extrêmement délicate aujourd'hui à fournir. Et il me semble qu'elle ne peut être que délicate, aussi bien pour les héritiers de Habermas, que j'évoque ici, que pour ceux de Rawls. Je pense que la même analyse pourrait être menée pour ceux de Rawls. La tentative de Rawls, je ne l'évoque pas ici directement, parce qu'elle avait été soumise, nous le savons tous, à critique sur ce point précis, la jeunesse de l'entente, la jeunesse de l'accord, par Habermas lui-même, lors du débat sur la justice politique, pour ne pas avoir satisfait suffisamment à l'exigence de clarifier la procédure de la jeunesse du consensus par regroupement entre les citoyens, mais s'être satisfait, c'est ce que lui reprochait Habermas, de s'être satisfait plutôt du constat ou de la postulation d'un tel accord. En tout cas, dans le contexte des sociétés pacifiées que sont les sociétés démocratiques. Cette objection de Habermas reste a fortiori valide après le 11 septembre et ce qui a succédé en la matière au 11 septembre. Et qui ont constitué toute une série d'événements qui ont prolongé depuis lors les répercussions sur notre ancien optimisme. Pour autant, du côté de l'éthique de la discussion elle-même, qui avait fait cette objection à l'éthique du consensus par regroupement, je ne suis pas du tout certain qu'une fois dégrisé par le 11 septembre des illusions optimistes des années 80-90, Habermas ait davantage trouvé les moyens de consolider les intuitions principales de la démocratie. Je termine en disant pourquoi. Le problème qui est visiblement apparu alors de façon très soudaine à Habermas est que pour que l'articulation soit envisageable entre une éthique de la discussion et un processus de délibération politique de type démocratique, il faudrait qu'il y eut consensus, en quelque sorte, pré-dialogique. Ou, si vous préférez, si l'on entend par la sphère de la discursivité, celle de l'échange argumentatif, un consensus pré-discursif. Consensus pré-dialogique ou pré-discursif requis pour que, simplement, puisse s'enclencher, à partir de cet accord préalable, le travail de l'argumentation faisant surgir à son issue l'accord ou le consensus sur la position s'imposant comme à adopter en raison du principe de l'adhésion au meilleur argument. Manifestement, ce consensus prédiscursif avait été conçu par Habermas comme ne faisant pas véritablement problème. dans le contexte de ce qu'il appelait un monde social vécu, partiellement d'Iltaïenne, où le souvenir des affrontements passés, y compris des anciennes guerres de religion, et les acquis méthodologiques issus des étapes antérieures de l'échange argumenté, pouvaient sembler suffisants pour ne pas hypothéquer l'adhésion au principe de la procédure délibérative. Au point que Habermas avait récusé, en ce point précis de sa conception de la démocratie comme démocratie délibérative, l'exigence formulée par Carl Otto Appel, co-initiateur avec lui de l'éthique de discussion, qu'il y eut à envisager une quelconque interrogation en termes de fondation ultime d'une telle éthique. Ça lui paraissait totalement non nécessaire. Cette articulation de la démocratie délibérative à une éthique de la discussion ne pourrait que se fragiliser, en revanche, et je pense que c'est ce qui est apparu, nous aurions pu au demeurant y songer dans nos années d'optimisme, dès lors que surgirait éventuellement un contexte problématisant la possibilité de se représenter le consensus prédiscursif comme procédant de la sédimentation des acquis d'un monde social vécu en commun. C'était très facile de se représenter les choses dans le contexte d'un monde social vécu en commun. Ça le devenait beaucoup moins dans le nouveau contexte qui s'est affirmé, éventualité en tout cas que nul d'entre nous ne saurait exclure en droit aujourd'hui de devoir envisager dès lors que nous entrons dans l'espace d'une éthique qui, du moins chez les modernes, est en principe une éthique de la liberté, une éthique étayée sur le libre engagement de ceux qui s'y reconnaissent, mais peuvent aussi refuser de s'y reconnaître. Si nos éthiques, et en particulier l'éthique de la discussion, est une éthique de la liberté, il faut donc, au moins par méthode, il fallait donc déjà, au moins par méthode, ne pas récuser que cette éventualité puisse se produire. L'épreuve philosophique traversée par Habermas au lendemain du 11 septembre ne pouvait donc être particulièrement rude, puisque la méthode, ce qu'on aurait pu supposer par méthode, est de toute façon devenue une réalité. De là, l'extraordinaire, en même temps que déconcertante honnêteté avec laquelle, dans l'entretien que j'ai évoqué, Habermas affronte, sans faux fuyant, la perspective selon laquelle l'ensemble de ce qu'il avait conçu, notamment sa conception de l'activité orientée vers l'entente, pourrait bien être en voie de sombrer dans le ridicule face au surgissement dans le réel d'acteurs avec lesquels le présupposé de l'accord sur le principe de la discussion par recherche du meilleur argument et sur ses règles ne fonctionnait manifestement pas. Tout dans leur esprit ne se trouvant précisément pas ouvert à la recherche en commun de ce qui serait susceptible de l'emporter dans la recherche de meilleurs arguments, mais tout au contraire se révélant déjà fermé ou refermé par l'adhésion héritée d'un ensemble de traditions non soumises à délibération à des vérités établies en amont de toute discussion et de tout échange, y compris sur le principe et sur les règles de la discussion. De là est venue toute la tentative, que je n'ai même pas, que vous connaissez, mais qu'il faut mettre en perspective à partir de là, toute la tentative de Habermas dans les années qui ont suivi, pour s'épargner, je dirais de façon quasi désespérée, une telle issue, en convenant que les fondements prépolitiques de l'état de droit démocratique sont fragiles, et exigent d'être en quelque sorte, c'est la tentative qu'il fait depuis 2007-2008, ils exigent d'être redensifiés par un appel que je pense être désespéré à toutes les formes de motivation que peuvent fournir à cet égard les grands récits religieux, qui ne sont pas des discours argumentatifs, mais qui peuvent fournir, estime Habermas, à notre conscience normative des ressources leur permettant de densifier, en quelque sorte, leurs choix ou leurs options. Donc il faudrait désormais ne plus considérer les traditions et les contenus religieux comme des reliquats archaïques, mais au contraire comme des réserves motivationnelles à ne pas écarter du revers de la main, puisqu'au contraire, elles pourraient, et pour le dernier Habermas, enfin en tout cas jusqu'à aujourd'hui, elles seules pourraient en permettant de dégager une force d'inspiration valant pour la société dans son entier, constituer un fonds de réserve, un véritable fonds, où puiser, dans lequel puiser pour engendrer du consensus, pour engendrer un consensus que l'espace démocratique ne peut pas toujours produire, aussi bien en lui que vis-à-vis d'autres espaces extérieurs à lui, à partir de raisons ou d'une rationalité qui lui soit propre. Voilà, je trouve ce virage assez extraordinaire, dont il me semble toutefois permis d'estimer qu'il conduit l'éthique de la discussion, mais je crois beaucoup d'éthiques contemporaines qui peuvent affronter le même type de difficultés à partir de leurs propres présupposés, il me semble que cela les conduit au-devant de grandes difficultés qui pourraient devenir les nôtres, devenir de plus en plus les nôtres, si nous ne mettions pas à l'ordre du jour de l'éthique publique et de l'éthique globale, désormais, le questionnement que je symbolise heuristiquement par cette interrogation, les prochaines guerres pourraient-elles être des guerres de religion ? Je vais m'arrêter là parce que j'ai achevé mon...
Parfait.